Réplique, la grande guerre, une affaire de famille, avec Stéphane Audouin-Rouzeau et Stéphane Hertmans. Comme l'écrit François Furet dans son livre « Le passé d'une illusion », la Première Guerre mondiale a précipité dans un malheur inouï des millions d'hommes pendant plus de 4 années pleines, sans aucune de ces intermittences saisonnières que présentaient les campagnes militaires de l'époque classique. Comparé à Ludendorff ou à Foch, Napoléon a encore fait la guerre de Jules César. De ce malheur sans précédent, et de ses conséquences, 2 livres témoignent avec une force particulière. « Quelle histoire » de Stéphane Audouin-Rouzeau et « Guerre et térébenthine » de Stéphane Hertmans. Stéphane Audouin-Rouzeau est historien, Stéphane Hertmans romancier, mais ils ont ceci en commun que le premier conflit mondial est pour eux une affaire de famille. Délaissant le grand récit généraliste, ils retracent des trajectoires individuelles et les individus qu'ils évoquent sont leurs grands-pères respectifs. Commençons par le vôtre, Stéphane Hertmans. Présentez-nous Urbain Martin.
Merci. Oui, Urbain Martin, on dit Martin en flamand. En fait, en français, on dirait martien.
Oui.
Urbain Martin est né d'une situation que je trouvais déjà dans ses mémoires qu'il m'a laissé très particulier. Il est né dans une famille extrêmement pauvre, le petit quartier industriel fin du 19e siècle. Son père était peintre, artiste, restaurateur des églises, très dévote, catholique. Et sa mère venait d'une famille un peu plus mieux rangée. Et elle a fait un petit pas en arrière parce que c'était vraiment un mariage d'amour, hein, que je décris.
Elle l'a fait contre l'avis de sa famille, ce mariage.
Exactement. Oui, oui. Elle n'a plus eu beaucoup de contact avec sa famille après. On l'a laissé tomber un peu. Ça veut dire que ça a soudé encore ce couple romantique. Bon, cet homme était un homme très vulnérable, de mauvaise santé, mais très, très, très sensible. Hein, ce qui est aussi un trait de mon grand-père. Et de l'autre côté, il a hérité de sa mère une grande dignité. Elle avait pu étudier à cette époque-là. Elle avait servi chez une famille aristocratique à Anvers. Ça veut dire qu'elle connaissait un peu plus son monde. Elle pouvait écrire, par exemple, des livres, des lettres pour des gens en français, hein, parce qu'elle maîtrisait le français. Et tout ce mélange, pour moi, était révélateur parce que de notre époque, on ne peut plus presque parler de la culture avec les grandes masses populistes, pour ainsi dire. Tandis qu'à ce moment-là, on voit que pour une famille pauvre, des petits quartiers, c'était le seul espoir de l'émancipation. Et ça a beaucoup marqué mon grand-père.
Oui, donc votre grand-père, qui est flamand, donc, il faut le dire, né dans une famille pauvre, a été mobilisé en 1914... Et il a fait la guerre, il a laissé ses mémoires de guerre, et d'ailleurs, ils sont présents, ces mémoires sont présentes dans votre livre, mais il semble que vous les ayez un peu réécrits, puisque quel type de travail avez-vous fait à partir des textes laissés par votre grand-père?
C'était un travail terrible, épuisant même, parce qu'au début, j'ai pensé, quand j'ai lu les cahiers pour la première fois, je l'ai eu en 81. À cette époque-là, moi j'avais les cheveux longs, je jouais du jazz, etc. J'ai dit merci mon grand-père, et je l'ai mis quelque part dans un tiroir. Ça a pris 30 ans avant que j'aie osé de les ouvrir, parce que j'avais aussi peur des sentiments qui pouvaient y ressurgir pour moi-même. Le moment que je les ai lus, c'était une bombe pour moi, parce que je me rendais pas compte que tout ce traumatisme de la guerre, qu'il pourrait garder cela en lui pendant 50 ans, avant qu'il a commencé à écrire seulement. Et là, à ce moment-là, j'ai vu que dans le livre, ces 600 pages qu'il a écrit, il n'y a pas une rature. Ça veut dire qu'il a écrit quelque chose qui lui hantait tout le temps. Et pour moi, c'était très fort, cette émotion.
Pourquoi n'avez-vous pas choisi de livrer ces carnets tels quels? Parce que vous citez des passages.
Ouais. De l'ouverture.
Oui.
Que Dieu me vienne en aide, il n'y a que mes expériences, mon épouvante. Ouais. Magnifique introduction, voilà. Mais c'est un des rares moments où vous lui laissez totalement la parole à la première personne.
Oui, vous avez raison, Stéphane Audouin-Rouzeau. Mais justement, quand il parle à la première personne, il s'exprime très bien. Il y a une espèce de force dans son récit, et on se dit, alors, pourquoi la réécriture? Qu'est-ce qui nous y a obligé?
C'était une prise de conscience pour moi, parce qu'au début, j'ai pensé, c'est un document tellement unique, quel soldat a écrit 50 ans après la guerre, 600 pages là-dessus. Mais je pouvais pas, j'ai commencé à taper. Tout simplement, littéralement. Et puis je me suis rendu compte, c'est un flamand révolu. Il y a personne qui parle encore comme cela. Il raconte beaucoup trop de petites anecdotes qui sont importantes pour lui, de petites chansons, etc. Ça ne va pas pour un lecteur contemporain. Et à ce moment-là, j'entrais vraiment dans une crise d'identité. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis, moi, comme son arrière-fils? Comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais l'évoquer? Et puis j'ai trouvé ce qu'on a nommé dans la presse, cette façon zébaldienne, de Zébalt, de savoir, je ne peux pas retrouver ce que je veux trouver, mais je vais quand même essayer et je vais l'évoquer. Mais je lui ai rendu l'honneur dans la deuxième partie, parce que le livre est construit comme une triptyque d'hôtel. Hein. C'est une sorte d'ironie dans la construction, c'est le triptyque pour lui. Et dans la deuxième partie, le Saint-Martin dans la guerre, pour ainsi dire, je l'ai suivi presque littéralement. Mais j'ai retravaillé en néerlandais contemporain.
Ah d'accord, mais voilà. Presque littéralement. Oui. D'accord. Mais alors, je me tourne maintenant vers Stéphane Audouin-Rousseau. Vous êtes historien de la Première Guerre mondiale. Vous avez lu ce récit du grand-père, la manière dont il a vécu la guerre. Qu'est-ce que ce récit vous a appris?
Ah, d'abord, il m'a appris évidemment une autre guerre, une guerre vécue sur du côté de l'armée belge. Donc, c'est une guerre que les Français connaissent peu, même s'il y a eu un petit front belge terrible d'ailleurs, hein, dans les plaines de l'Isère. Mais donc, c'est une guerre un peu inconnue des Français, alors qu'elle se déroule sur le front ouest, que l'armée belge est en jonction avec l'armée française. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, évidemment, qui est très forte dans le livre, c'est la confrontation très rugueuse entre Flamands et Wallons, au détriment des Flamands dans le contexte de l'époque, au sein même de l'armée, hein, ça se sent à tout moment. Donc c'est un deuxième aspect aussi que les Français comprennent mal, moi le premier d'ailleurs. Et puis voilà. Sinon, en termes d'expérience de guerre, mais je suis historien et donc je m'interdis la fiction. C'est presque une coquetterie de m'interdire la fiction. Et donc, à certains moments, je me dis, mais au fond, qu'est-ce que disait Urbain Martin lui-même et qu'est-ce que dit Stéphane Hertmans à travers, en quelque sorte, la plume, les lignes hein, d'Urbain Martin. Ça a été la grande question qui m'a préoccupé, disons, dans la lecture de la deuxième partie, de la partie centrale du triptyque. Et je me suis dit, au fond, que on n'écrivait pas du tout le même livre, pas seulement parce qu'il y a un historien et un romancier, la question de la fiction et la question de la véridicité, mais je crois que ce qui sépare nos deux livres, c'est qu'au fond, bien sûr, la guerre est centrale dans votre triptyque, elle est centrale dans la vie d'Urbain Martin, et c'est tout à fait logique, puisqu'il n'y a pas d'expérience collective plus importante qui puisse être vécue par un être humain qu'une expérience de guerre. Et quelle guerre, comme vous le rappeliez à la fin de Kalkroth au début de l'émission. Mais en même temps, on a l'impression que la guerre a été une grande parenthèse, mais que l'histoire d'amour qui est derrière, finalement, traverse tout cela et prime en dernière instance. Alors que dans mon cas, c'est la guerre qui est le principe, qui reste à travers la vie des individus. C'est la guerre qui reste le personnage principal du livre.
Oui, je pense qu'entre nos livres, il y a ce va-et-vient entre le scrutin et l'imaginaire.
Ah, totalement.
Ah, évidemment, moi, étant romancier, je prends le côté de l'imaginaire pour remplir où le scrutin me quitte, quoi.
Alors que j'avais, moi, personnellement, des sources qui pouvaient, effectivement, il était très facile de passer au roman. Oui. Très facile de passer au roman.
Vous êtes très proche.
Et je me suis interdit de le faire de manière, c'est quasiment une coquetterie, puisque j'ai ajouté des notes de bas de page qui ne servent à rien.
Mais en même temps, moi, ce qui m'a frappé en vous lisant, d'ailleurs en vous lisant l'un et l'autre, c'est que ce qui s'exprime dans les carnets tels que vous y retranscrivez de votre grand-père, c'est à la fois l'horreur de la guerre, la monotonie aussi, cette guerre interminable, le mot monotonie revient à plusieurs reprises, le temps devient une durée monotone, la durée perd sa direction, la direction fait place à l'immobilisme et à l'ennui. L'horreur de la guerre, c'est par exemple ce que raconte votre grand-père. Il y a un cirque de guerre à l'arrière du front, les soirs d'été, un spectacle ridicule est présenté. Jeff Brabants, un soldat d'infanterie, avance sur les fines planches en s'encelant dans le rôle d'une ballerine grotesque, en tutu, les voiles de la jupe gonflant au-dessus de ses genoux osseux et de ses plats chaussés de grosses pantoufles à carreaux, deux chaussettes roulées en boule et comprimées sous son bustier font l'effet de seins noduleux. Et puis, voilà, il arrive, il fait rire tous les autres soldats, mais en retournant vers la tranchée, le maladroit Jeff Brabants, encore transporté par le succès qu'il a récolté, reçoit une balle ennemie dans l'œil droit, la moitié de son visage est arrachée, il râle comme une bête, défèque dans son pantalon, vomit et tombe en avant. Quelqu'un lui donne le coup de grâce, car son cerveau pend de la tête. Nous nous sommes tous aplatis au sol et rampons sous la dernière centaine de mètres jusqu'à ce que nous puissions rouler à l'intérieur de la tranchée. Scène d'horreur, il y en a plusieurs. Hein. Elles égrènent son récit. Et puis, en même temps, ce qui est très frappant aussi, c'est la haine de l'ennemi. La haine de l'ennemi est là, de bout en bout. Parce que il sème la terreur, parce qu'à un moment donné, il y a un garçonnet que voient les soldats belges, donc l'un d'entre eux veut aller le sauver, et les Allemands, en embuscade, se mettent à tirer sur lui, donc le garçonnet était un piège, tout cela suscite une haine profonde, donc ce sont tous ces éléments-là qu'on a du mal à penser ensemble. Aujourd'hui, la Première Guerre mondiale, c'est surtout le dégoût de la guerre, l'horreur de la guerre elle-même, mais la haine de l'ennemi, on a oublié à quel point elle était présente du début à la fin chez les soldats. Stéphane Hertmans.
Oui, je crois que la scène que vous décrivez là, avec l'embuscade avec l'enfant, qu'à ce moment-là, c'est un point tournant pour mon grand-père, qui est un homme simple, naïf, c'est un petit soldat chouette, il dit toujours, oui, mon commandant. Mais à ce moment-là, quand il voit cela, il se rend compte avec tous ses camarades. Et là, il y a un ennemi qui fait une guerre psychologique que nous, on connaît pas. Nous, on a été éduqués avec l'honneur de la patrie, avec l'honnêteté du soldat. Et là, ce que les Allemands nous infligent, là, c'est vraiment une immoralité. Et à ce moment-là, il dit, maintenant, on sentait, et on avait peur en le sentant, qu'on devenait des hommes différents, prêts à faire tout que l'ennemi nous faisait. Deux pages plus loin, je l'ai pas dans mon livre, mais lui, il écrit « À la guerre comme à la guerre ». Et quand, après coup, moi, je demandais, étant enfant, « Mon grand-père, est-ce que vous avez tué des gens ?» Il fermait les yeux, il soufflait, il quittait la maison, et il n'entrait plus pendant quelques heures, il ne pouvait pas en parler.
Cette question de la haine de l'ennemi est centrale, parce que nous avons reconstruit, après la guerre, une grande guerre qui n'existe pas. Une grande guerre sans haine, et évidemment, avec cette grande guerre, elle a été très largement reconstruite par les anciens combattants eux-mêmes, qui, dans leur haine de la guerre... Et pour éviter, avec dans cette idée évidemment bien compréhensible, il fallait surtout pas que ça recommence. On construit une guerre dans laquelle, une guerre dans laquelle l'inimitié ou l'hostilité ou la haine entre adversaires n'existait pas. C'est absurde.
Et d'ailleurs, on peut faire entrer en scène là l'un de vos deux grands-pères, puisque ils sont tous les deux.
Il y a mon grand-père en ligne directe, et puis il y a le grand-père donc de mon épouse.
Hein, ouais, de votre épouse. Oui, pardon. Mais Max. Max, dites-vous, ah non, ça, c'est fini la guerre dans la haine.
C'est le grand-père, effectivement. C'est le père de ma mère, donc effectivement, là, c'est bien un grand-père, donc qui est dans ma filiation directe. Pardon, excusez-moi
pour la citation. Il est dit de Max qu'il a fini la guerre dans la haine.
Bien sûr, c'est un garçon bachelier, de la classe moyenne, d'un niveau intellectuel assez moyen. Il n'a pas la possibilité de penser différemment du plus grand nombre. Il est sous-officier, il déteste les Allemands, il détestera toute sa vie. Et je verrai plus tard dans mon enfance, bien après sa disparition, ma grand-mère faire des sorties anti-allemandes terribles. Il faut vraiment vouloir créer une guerre qui n'existe pas pour oublier cette dimension d'hostilité initiale.
Là, il y a une scène qui est très connue en Flandre, c'est la scène de Noël 14. Hein, les soldats entendent, les Flamands entendent les Allemands dans leurs tranchées, les premiers tranchées. Ils attendent chanter « Stille Nacht, Heilige Nacht ». En flamand, c'est « Stille Nacht, Heilige Nacht ». Alors, ils chantent ensemble. Ils sont à 100 mètres l'un de l'autre. Ils grimpent les tranchées, ils sortent, ils font la fête ensemble de Noël. Le lendemain, c'est connu en Flandre comme une légende très, très... Enfin, une anecdote qui est très illustrée par beaucoup de gens et de témoins. Le lendemain, les officiers ont tiré de l'autre côté parce que les soldats ne voulaient plus. Les soldats étaient fraternisés. Et ce sont les officiers des deux côtés qui ont tiré pour ressusciter la haine d'une façon complètement artificielle.
Ah oui, en même temps, cette fraternisation était un phénomène historique ancien. Dans les guerres napoléoniennes, on a des tas d'exemples de ce genre, et encore lors du siège de Sébastopol, dans la guerre de Crimée, au milieu du 19e siècle, où les soldats, les officiers, entre deux combats, sortent de leur position, mangent un peu ensemble, commentent le combat de la veille, et chacun repart de son côté, et ça n'empêche pas le combat. Ce qui est très frappant dans la Grande Guerre, c'est que cette fraternisation est la dernière, celle de Noël 14, qui se soit produite historiquement. Ensuite, malgré l'épuisement, malgré l'accumulation des pertes, cette forme de relation très spécifique entre combattants, qui vient du passé, disparaît.
Ça a quelque chose à faire avec la technologie croissante. La technologie de la Deuxième Guerre mondiale ne permettait plus de se rapprocher.
Oui, mais c'est aussi à faire avec la radicalité du combat. C'est-à-dire, on entre, comme vous le disiez, dans une sorte de guerre continue, de guerre de siège continue, qui ne permet plus ces formes ici de relations très sophistiquées, finalement, avec l'adversaire.
Alors maintenant, je voudrais vous citer Emmanuel Berle. Qui est un ancien combattant, et voilà comment il décrit sa guerre dans ce très beau livre d'entretien avec Patrick Modiano qui s'appelle « Interrogatoire ». Je reste un homme de 14 pour qui la guerre est quelque chose de répugnant qui consiste à rester dans des tranchées avec des rats qui vous courent dessus. Cela ne consiste pas du tout à charger la baïonnette, il faut rester là et ne pas foutre le camp. C'est une patience et une humiliation. Le mot poilu m'humiliait beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup mieux de ne pas être poilu, qu'on était sale quand on était soldat, et je n'ai jamais entendu cette expression sans un petit pincement au cœur. Malheureusement, tout le monde l'employait, Claudel, Barrès, tous les boutefeux de l'arrière. Et Emmanuel Berle, on le sait, a choisi la voie du pacifisme. Ça l'a conduit à écrire les premiers discours du maréchal Pétain. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Il n'a pas été pétainiste ou vichyssois, mais on lui doit l'expression « la terre, elle ne ment pas ». Donc, si vous dites, Stéphane Audouin-Rouzeau, que la haine était présente jusqu'au bout, comment expliquez-vous la puissance du sentiment pacifiste chez les anciens combattants après la guerre, et l'effondrement d'ailleurs de la France en 1940.
Les deux choses sont absolument liées.
Stéphane Audouin-Rouzeau.
Les deux choses sont absolument liées. La guerre a été en fait, on peut s'en le déplorer après coup, mais c'est comme ça, la guerre a été acceptée pendant. Et elle a été refusée après. Elle a été refusée d'autant plus violemment après, et dans ce pacifisme en particulier des anciens combattants des années 30 surtout. Moins des années 20 que des années 30, elle a été refusée d'autant plus violemment qu'elle avait été acceptée avant. On refuse d'autant plus un événement qu'on y a consenti préalablement. Et donc la question, c'est la question du temps. C'est la question, c'est qu'est-ce que l'on a fait accepter, penser pendant les années de guerre. Et c'est pas tout à fait la même chose en 14 et en 18. Qu'est-ce qu'on a fait penser en 1919, en 1920, quand on est vainqueur pour les soldats français? Qu'est-ce qu'on pense à la fin des années 20? Et puis qu'est-ce qu'on pense dans les années 30, quand on a vieilli, que de nouveau il y a une menace à l'est, du côté de l'Allemagne? Et tout ça, évidemment, c'est la question de la reconstruction permanente chez les acteurs sociaux de ce qu'ils ont pensé. Et ça, il faut évidemment le comprendre.
Oui, alors justement, votre grand-père a fait la guerre dans les sentiments que j'ai décrits, monotonie, horreur de toute cette violence, haine de l'ennemi, et puis il sort évidemment traumatisé de cet événement. Mais que s'est-il passé pour lui en 1940? Ça m'intéresse. C'est-à-dire, parce que vous êtes assez rapide sur cette question-là. Est-ce qu'il a été tenté par la résistance ou pas du tout? Est-ce que le dégoût de la guerre l'emportait sur tout autre sentiment chez lui à ce moment-là? Stéphane Hertmans.
C'est une question très importante. D'abord, je veux ajouter à ce que vous avez dit, pour les Flamands spécifiquement, ils ont érigé une tour, un monument à Dixmude, sur lequel se trouvent en quatre langues, « Ni vie de Krieg, nooit mehr Oorlog, no more war », plus de guerre, jamais de guerre. Ça veut dire que la commémoration flamande était sous le signe d'un pacifisme radical et total. Puis approche la Deuxième Guerre mondiale. On sait que les Flamands étaient complètement divisés parce que les Allemands ont essayé vraiment de briser la Belgique en donnant la première université néerlandophone à Gand déjà à 16. Hein, et les Flamands étaient divisés. Il y en avait qui disaient, oui, on rêve d'une université dans notre propre langue, c'est notre droit, mais pas si on le reçoit des Allemands. Ça veut dire que toute la schizophrénie de l'identité flamande était en train de se former déjà, hein, comme résultat de la Première Guerre. Puis approche la Deuxième Guerre. Mon grand-père était brisé. Hein, et il avait été blessé 5 fois. Son grand amour avait décédé. Et quand je lui demandais, mon grand-père, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puisqu'ils habitaient les rives de l'Escaut, il disait, ah, il y avait des gros poissons dans la rivière. Et les Allemands, ah, les Allemands étaient beaucoup plus polis. Et puis il avait toujours une petite anecdote. Il me disait, quand j'allais chercher un peu de lait de fromage pour ma mère qui était une fille de 18 ans à cette époque, et je rentrais trop tard pour les Allemands, parce qu'il y avait contrôle. Et il lui demandait son passeport. Il voyait qu'il était un vieux combattant de la Première Guerre mondiale. Il saluait. Il laissait passer. C'est la seule chose. Pour lui, c'était fini. Parce qu'il faut compter que la Belgique a été tellement meurtrie, pour ainsi dire, a tellement été... c'était une catastrophe totale pour toute la population, que ça explique aussi le rôle du roi Léopold pendant la Deuxième Guerre,
oui,
qui s'est rendu. Il y a pas mal de gens en Europe ont dit, maintenant les Belges qui ont été tellement courageux dans la Première Guerre mondiale sont maintenant lâches. Mais non, il n'y avait pas assez d'hommes pour aller se battre. Le pays était vraiment complètement dévasté. Et ça explique le silence en Flandre pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Mais il y avait cette collaboration intellectuelle. Il y a eu quand même un mouvement de résistance aussi en Belgique.
Il y avait des résistances, absolument.
Oui. Mais ça, votre grand-père n'a jamais été tenté d'y participer.
La seule chose que je sais certain, c'est qu'après la guerre, il a eu des ondes de choc électrique. Ça parle. De nouveau, dans le silence de son caractère, ça parle. Environ
après la Deuxième Guerre.
Oui. Dans le début des années 50, il a eu des chocs électriques. Ça veut dire qu'il était complètement paranoïaque et il pensait qu'il y avait des microphones, des socialistes qui craignaient tellement, qui étaient dans sa maison et qui lui écoutaient. Et ça, on parle, qu'il a souffert de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une passivité totale.
Maintenant, parlons de Max et Robert, les deux grands-pères qui sont les héros de quelle histoire. Donc, ils ont traversé la guerre. Et dites-nous-en un peu plus, justement, sur Robert. Parce que...
Robert, oui, Robert, c'est lui aussi la Grande Guerre. C'est un jeune homme, jeune bachelier Mathelem, qui se porte volontaire en 1915, qui part en 1916 donc dans l'artillerie et qui monte en ligne fin août 16 dans la Somme, c'est-à-dire qu'il va directement pour son baptême du feu dans le brasier vraiment de la Grande Guerre. La bataille de la Somme est sans doute avec Verdun une de la plus grande bataille de la Grande Guerre, une des plus grandes batailles du XXe siècle, et c'est là qu'il subit le martèlement d'un bombardement de nuit. Hein, dont, qui est une expérience de terreur indicible. Et heureusement, j'ai le texte de ce bombardement dont il a écrit. Hein, et là, j'ai, contrairement à vous, j'ai fait le choix inverse, c'est-à-dire que je n'ai pas changé une virgule. Je me suis interdit, parce que c'est un texte quasiment sacral. Et c'est par mes travaux d'historien, il fait la guerre jusqu'au bout, il en revient indemne physiquement et brisé psychiquement.
Voilà.
Et ça, je ne l'ai compris qu'à travers mes... j'ai compris à travers mes propres travaux d'historien, assez longuement, lentement, j'ai compris que personne n'avait compris ce qui était arrivé à Robert. Robert n'a pas compris ce qui lui était arrivé. C'est évident. Son mode de représentation de ce que doit être un homme, un vétéran, etc., fait qu'il ne peut pas comprendre qu'il a été brisé par la Grande Guerre. C'est un masque, une façade, c'est un homme brisé définitivement. Sa femme, j'essaye de raconter l'histoire des femmes aussi dans un supplément à Quelle Histoire, dans la version de Poche au Seuil, qui s'appelle justement Du côté des femmes. Sa femme, évidemment, ma grand-mère, ne l'a pas compris davantage. Son fils, mon père, ne l'a pas compris non plus. Et c'est là sans doute que l'incompréhension la plus grave se noue. C'est-à-dire qu'au fond, ce père faible, hein, qui était devenu Robert, eh bien, cette faiblesse du père est devenue sa propre faiblesse. Et donc, pour moi, c'est en ce sens que la Grande Guerre est j'appelle le tueur à la fin du livre, à travers Robert en particulier, à travers Robert, la guerre, au fond, continue de tuer psychiquement, hein, au fond, jusqu'à mon père, et je l'espère, j'espère avoir arrêté la malédiction.
Alors le destin, on parlera de votre père, mais le destin de ce Robert est vraiment poignant. Puisque effectivement, il n'arrive jamais, il est brisé, il n'arrive jamais à se réadapter, et il termine sa vie, si j'ai bien compris, comme domestique de son propre père.
Exactement.
Il devient le domestique de son propre père. Parce que son fils lui-même le rejette. Son fils qui a tiré de la guerre l'idée selon laquelle la guerre est infâme, elle n'est que boue et sottise, absurde abomination. Donc... il y a là quelque chose d'absolument pathétique, Stéphane.
Oui, c'est-à-dire que Robert n'a jamais pu reprendre pied dans les années 20 et 30. Il subit tout de même la défaite de juin 40, de nouveau dans l'artillerie, est fait prisonnier, revient de... Il faut se rendre compte de ce que c'était que la captivité pour ces hommes qui avaient combattu pendant 4 ans et demi. Il revient, après la Deuxième Guerre mondiale, le précipice s'ouvre devant lui, et effectivement, pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, il devient une sorte d'esclave, effectivement, d'esclave domestique de son propre père, dans une grande...
Qui le méprisait.
Qui le méprisait totalement, à cause de son échec. Le père ne comprend pas non plus ce fils brisé. Donc cet homme n'est compris par personne. Je suis le premier de la famille à l'avoir compris par l'histoire. Par l'histoire. Oui. Et ça crève les yeux, pourtant. Hein, mais il y a eu une sorte de déni familial général, et donc il y a une sorte de zone comme ça qui n'a et mon père, donc évidemment tout à fait d'extrême gauche après 45, converti au surréalisme de manière explicite à partir de la fin des années 50, n'avait pas les outils intellectuels pour comprendre ce qu'avait pu être la guerre de son père. Voilà, la guerre était une sottise, c'est la vision surréaliste, donc tout à fait classique, développée par Breton, par Ragon, pas tout de suite d'ailleurs, mais un peu plus tard. Mais voilà, la guerre est une sottise, mon père a été dedans, ça n'a aucun intérêt. Oui. Aucun intérêt, ce qu'il a vécu n'a pas d'importance, et donc je lui tourne le dos en même temps que je tourne le dos à sa guerre.
Et en vous, en revanche, vous avez, par vos travaux d'historien, en quelque sorte cherché un peu à réhabiliter votre grand-père en montrant la réalité du sentiment national combattant, en montrant que la guerre ne pouvait pas se réduire à un bourrage de crâne. Donc, d'une certaine manière, vous lui avez tendu la main.
Oui, je pense que je lui ai tendu la main comme historien, effectivement. Au grand dam de mon père d'ailleurs qui s'est très fâché de mes propres travaux sur la Grande Guerre, de cette vision finalement non conforme à la sienne de ce que j'ai pu trouver sur les soldats du premier conflit mondial. Je crois que les soldats français de la Grande Guerre, construits en quelque sorte par une école républicaine et une société d'une homogénéité dont nous n'avons plus idée aujourd'hui, n'ont pas fait la guerre avec plaisir, ça certes non, mais cette idée de devoir, cette idée qu'il fallait défendre une patrie attaquée par un ennemi qui avait voulu l'attaquer, l'hostilité à cet ennemi faisait partie au fond des idées communes dans lesquelles ils ont été pris. Et ce grand-père, Robert Audouin, de même que mon autre grand-père de maternel, Max Hérold, était évidemment dans cet état d'esprit. Et le grand-père de ma femme, Pierre Bazin, dont je retrace aussi l'histoire, qui lui au contraire est sorti physiquement très gravement blessé, mais psychiquement indemne de la guerre, c'est un paradoxe, était exactement alors qu'il venait d'un milieu social et intellectuel différent, était dans le même état d'esprit. On est dans ce monde de Français qui ont fait, comme il disait, leur devoir et qui avaient beaucoup de mal à comprendre plus profondément, je crois, ce qui leur était arrivé.
Alors, je voudrais citer ici l'avant-dernier président de la République, Nicolas Sarkozy, parce que dans un discours inspiré, sinon rédigé par Henri Guénaud, il a cité un jeune peintre de 24 ans qui écrivait, qui allait mourir le 5 avril 15 et qui écrivait à sa mère en septembre 1914 les mots que voici. Auparavant, j'aimais la France d'un amour sincère, encore qu'un peu dilettante. Je l'aimais en artiste, fier de vivre sur la plus belle terre, mais en somme, je l'aimais un peu à la façon dont un tableau pourrait aimer son cadre. Il a fallu cette horreur pour sortir tout ce qu'il y a de filial et de profond dans les liens qui m'unissent à mon pays. C'est un peu aussi de cela que vous avez voulu parler.
Vous dites, c'est évidemment, c'est un artiste, c'est en même temps, on se rapproche de Romain Martin, mais c'est en même temps un homme qui écrit évidemment très éduqué, qui écrit très bien, 24 ans, c'est évident. Le monde des artistes, des écrivains, des intellectuels, des universitaires ont été extrêmement sensibles à ce que j'appelle la culture de guerre en France, c'est-à-dire une guerre qui avait du sens pour eux, qu'il fallait faire jusqu'au bout, avec tout en étant écœuré par elle. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, à quel point on peut consentir à quelque chose qui vous écœure.
Alors Stéphane Edmars, venons-en à cet autre artiste qui était, revenons-en plutôt à cet autre artiste qui était votre grand-père. Et il sort brisé de la guerre, mais l'épreuve qui le brise peut-être plus encore que la guerre elle-même, c'est il rencontre une femme qu'il aime éperdument, il est aussi romantique que l'était son propre père, et cette femme meurt en 1919 de la grippe espagnole. Il est anéanti, et selon une coutume, qui était encore très puissante à cette époque, il épouse la sœur de cette femme, Gabrielle. Ce ne sera pas un mariage d'amour, il sera fidèle à sa propre femme, parce que c'est un homme de devoir, mais il ne l'aimera vraiment jamais. Et donc, il y a cet élément aussi de tristesse particulière quand on lit votre livre, Stéphane Edmars.
Oui, je crois bien. Je crois bien que c'est un livre sous le signe de la mélancolie et du temps. Et il faut dire que le moment qu'il y a cet échange un peu ironique, même entre ces figures de femmes, il y a d'abord sa propre mère Céline, qui est le même genre. Il disait, un des grands, des grandes beautés de la peinture, ce sont, un des sept grandes beautés, il me disait toujours, ce sont ces femmes très grandes, cheveux noirs et les yeux bleus. Ça lui fascinait. Et on voit que la femme de laquelle il tombe amoureux, il y a quelque chose de freudien, d'oedipien. C'est presque comme une copie, lui qui deviendra un copiste plutôt qu'un artiste originel. Son amour est une copie de l'amour pour sa mère. Et puis on voit qu'il marie encore la sœur. Ça veut dire qu'il est coincé en fait entre des femmes qui pour lui ont tout un lien dans sa vie et qui tiennent quelque chose pour lui dans la vie parce qu'il y a un gouffre en dessous de lui. Il sort de la guerre, il sort bien. 5 fois blessé, en héros. Il a eu toute la décoration qu'on pouvait avoir à cette époque-là de l'armée belge. Je les ai dans un petit truc. C'est impressionnant. Mais en fait, il est creux. À l'intérieur, il est creux. Et là, quand la femme meurt, il ne s'en
remettra jamais.
Non. Et tout son travail de peinture est un travail de deuil, parce qu'on peut se demander pourquoi il n'est pas devenu un grand peintre comme Vermeer, un artiste flamand expressionniste, comme il y en a beaucoup.
Oui, parce qu'il avait un talent extraordinaire.
Oui, il avait un talent vraiment extraordinaire.
Parce que vous reproduisez certaines de ses toiles, et on voit enfin qu'il a une virtuosité, qu'il a un métier.
Oui.
Et donc il n'a jamais été peintre.
Je pense qu'il a été brisé vraiment dans son talent aussi.
Quelle était sa profession? Employé des chemins de fer, c'est ça?
Il avait travaillé étant gosse dans la fonderie. Ils n'avaient pas de diplôme, ils étaient trop pauvres, mais ils avaient beaucoup de talent. Alors on, comme beaucoup de soldats, on l'a donné un emploi au chemin de fer. Il a travaillé là dans les ateliers une décennie et demie, mais déjà dans les années 30, on l'a mis à la retraite, la pension très modeste, et il a toujours vécu dans la maison de mes parents. C'est à cause de cela que moi j'ai encore passé une jeunesse avec 3 générations dans la maison, que je trouve vraiment un trésor pour l'inspiration.
Oui, et parmi toutes les toiles que vous reproduisiez dans votre livre, Stéphane Edmars, il y a le portrait, à la fin du livre d'ailleurs, de Gabrielle. Son épouse. Et ce portrait m'apparaît à moi, enfin je ne suis pas spécialiste, comme un pur chef-d'œuvre. C'est un portrait tout à fait figuratif, tout à fait classique, il n'invente rien, et d'ailleurs vous le décrivez magnifiquement, elle a sa mantille noire posée sur ses cheveux gris, porte sa veste grise, un chemisier de dentelle blanche fermé par son camée en ivoire. Elle regarde d'un air parfaitement paisible, serein le spectateur. Son regard est celui des jours tranquilles, les jours où elle était assise sur un banc dans le jardin et observait autour d'elle les choses du quotidien qui pouvaient la rendre heureuse. La couleur dominante a un reflet doré, une sorte de lumière du soir semble rayonner sur son visage. Et c'est vrai, c'est une œuvre absolument magnifique. Donc,
tout à fait.
Il aurait pu devenir un grand peintre.
Oui, Et c'est sa seule grande réussite. C'est une œuvre très cathartique aussi bien. Parce que quand on voit ses autoportraits, il n'arrive pas à se peindre lui-même. Il ne peut pas se regarder dans les yeux, pour ainsi dire. Tandis qu'avec cette femme qu'il a, j'en suis convaincu, qu'il a aimé beaucoup, profondément. En flamand, il disait toujours, si je traduis un peu en français, j'avais toujours porté une grande affectivité profonde. C'est pas de l'amour.
C'est pas de l'amour, oui.
Je me rappelle que au Toussaint, à partir de 9h le matin, ils étaient en train de prier pour Maria Emilia. Et leur seule fille avait le même nom de la défunte, Maria Emilia. Alors ça veut dire qu'il y a là une sorte d'échange. Son deuil de la guerre, il a refoulé. Et il a remplacé par le deuil de l'amour.
Oui, ouais. Et il lui écrit une lettre. Il avait un très très beau style. Je voudrais en citer les dernières phrases. « Notre mariage n'a pas été facile. Et tu sais à quel point je me suis battu contre les démons au fond de moi. Le Seigneur nous a beaucoup donné, Gabriel. Moins que ce que nous voulions peut-être, mais tout de même. Plus qu'assez pour ne pas avoir à nous plaindre. »
Voilà sa position.
C'est très émouvant et émouvante aussi et votre confidence dans le livre. Vous aviez 12 ans et votre grand-père vous a donné une montre à laquelle il tenait énormément. C'était le seul bien familial à avoir échappé aux mises en gage répétées et sa mère la lui avait confiée à la mort de son père en la laissant tomber, parce que vous l'avez laissé tomber. Eh bien, vous laissiez tomber le temps de votre grand-père, mais en même temps, vous l'avez dit dans une interview au journal belge Le Soir, on laisse toujours tomber le temps des autres, mais voilà, vous pouvez brandir le livre et dire que ce livre, c'est un peu la montre réparée du grand-père.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais alors, vous, Stéphane Audouin-Rouzeau, il est beaucoup question, dans la dernière partie de votre livre, de votre père, Philippe Audouin. C'est des moments aussi extrêmement émouvants, parce que c'était un homme, semble-t-il, extraordinaire, mais qui avait tiré cette leçon radicale de la Deuxième Guerre mondiale, que la guerre, on l'a dit, n'était que boue et infamie, que bourrage de crâne, que le sentiment national lui-même devait être combattu, et cette idée a alimenté l'extrémisme qui a été le sien. Il a été surréaliste, cette espèce de radicalité politique dans laquelle vous ne vous êtes jamais vous-même reconnu.
Stéphane Audouin Rouzeau. C'est très vrai. Je crois que mon père s'est construit de cette manière, effectivement, après 45, comme beaucoup de jeunes gens de sa génération. Il ne s'est jamais converti en revanche au communisme, mais le surréalisme a joué un rôle ici certainement d'antidote. Et puis après n'avoir jamais perdu de vue cette grande présence, cette grande figure d'André Breton, il a fini vraiment par lui faire littéralement allégeance à la fin des années 50. Et voilà, les lettres que j'ai de lui le montrent très bien, et les textes qu'il a écrits sur Breton, qui sont d'ailleurs pour la plupart inédits, montrent cette extraordinaire fascination pour cette figure. Et en même temps, le drame de ce surréalisme, c'est que au fond, il mettait dans les mains, le surréalisme était un pacte que Breton proposait à signer à ceux qui souhaitaient le suivre. Et c'était un pacte terrible, par son exigence. Et dans le cas de mon père, c'était un pacte qui lui a empêché de comprendre ce qui était arrivé à celui qui était une personne très importante dans sa vie, son propre père. Donc voilà, et j'en ai quand mon père a commencé à s'effondrer dans les années 70, avec l'échec de 68, l'échec du printemps de Prague, son écrasement par les chars du pacte de Varsovie, et puis le ralliement de Cuba à cet écrasement.
Les surréalistes ont cru
à Cuba. La dernière lueur n'était pas à l'est, elle a été à l'ouest. Et donc après cette fin de la croyance, au fond, mon père s'est effondré en une dizaine d'années, Et j'en ai terriblement voulu à cette époque au surréalisme. Ce que mon père avait comme son talent de, d'écrivain, sa sens
immense culture,
je l'aurais donné mille fois pour avoir un père ordinaire, content de rentrer chez lui le soir après un travail rémunérateur. C'est maintenant seulement que je comprends les choses. Et au fond, de ce point de vue, ce livre, quelle histoire, c'est une lettre à mon père. Vous avez cassé la montre de votre grand-père.
Moi, j'ai
cassé mon père.
Pourquoi
je veux dire par là que quand il a, je n'ai pas su le soutenir, je n'ai pas su le comprendre, je l'ai désapprouvé, etc. Et donc, ce que j'ai pu réparer, je l'ai réparé par ce livre.
On voit quand même une continuité chez votre père entre ce rejet, en effet, du sentiment national, du fait des horreurs de la Première Guerre mondiale et son engagement. Vous citez Stéphane Audouin-Rousseau, un texte, un article paru 2 ans après la mort de Breton dans la revue surréaliste L'Archibras en juin 68, abat la France. Quiconque aujourd'hui pense avoir droit au respect a bien mérité sa paire de gifles. Voici enfin venu le temps de l'insolence. Abat les héritages, et d'abord abat l'héritage national, abat le patrimoine patriotard et patronal, française, français, nous faisons appel à votre mauvaise volonté. Et l'une des raisons de l'adhésion de votre père à mai 68, c'est que c'était justement la révolte de la jeunesse. Une jeunesse par définition sans héritage. Et alors il y a cette phrase qui m'a beaucoup frappé, je crois que c'est dans ses mémoires. L'enfance, l'adolescence, c'est le temps du singulier, la maturité, c'est celui de la banalité. Ça m'a beaucoup frappé parce qu'il me semble que c'est exactement l'inverse. L'adolescence, la jeunesse, c'est le temps de la tyrannie de la majorité. C'est le temps du conformisme lyrique. Et si on peut, à un moment donné dans sa vie, accéder à une certaine singularité, c'est précisément en mûrissant. Mais en mûrissant aussi, peut-être à partir, en acceptant aussi le monde dont on vient. Et votre père fait le raisonnement exactement inverse.
Absolument. Stéphane Mon père Rousseau. Avait le dégoût, au fond, de sa vie d'adulte. Et parfaitement réussi sur le plan professionnel pourtant, et même sur le plan intellectuel.
Oui, professionnellement, il faisait quoi exactement?
Il était directeur d'une des grandes caisses de retraite de la sidérurgie française, donc c'était vraiment un cadre supérieur dirigeant, et voilà, et donc des fonctions qui auraient satisfait bien des gens, mais qu'il avait en horreur. Et il avait horreur de cette réussite sociale et professionnelle. Il considérait que pour être un véritable écrivain, c'était Chateaubriand ou rien, et comme il ne serait jamais Chateaubriand ni Rimbaud, donc c'était rien. Voilà, c'est l'orgueil ici. Donc il avait cette horreur de cette vie d'homme responsable, posé, bourgeois, habitant le 16e arrondissement. Et la fin du premier tome de ses mémoires, qui n'ont jamais été publiés, mais qui sont à l'IMEC, c'est une vie d'adulte, à moins d'être follement aventureuse, une vie d'adulte ne mérite pas d'être comptée. Donc au fond, la vraie vie s'est arrêtée à l'enfance, à l'adolescence. Ensuite, elle n'a eu d'intérêt vraiment, je crois, qu'à travers justement le surréalisme, à travers ces années 60 qui ont été, je pense, les grandes années réussies de son existence, mais qui, au moment où le surréalisme se brise, hein, dans ce qui a été finalement, dans une certaine mesure, son succès, c'est-à-dire la grande crise de 68, il ne peut pas y survivre.
Et ses mémoires, vous les avez lues quand il les a écrites? Il vous les a confiées?
Bien entendu, non. Voir mon père écrire ses mémoires alors que c'était un homme encore jeune, ça me paraissait vraiment intolérable. C'est beaucoup plus tard, hein, c'est beaucoup plus tard que je les ai lus et relus et que j'ai compris au fond ce qui l'animait.
Alors Stéphane Hertmans, retour à votre grand-père. Il y a un moment donné dans le livre où vous parlez du roman de George Rodenbach, Bruges la morte. Vous découvrez dans la petite bibliothèque de son grand-père un exemplaire couvert de traces de doigts de cette célèbre nouvelle. L'histoire est celle de Hugues Viane, qui rencontre une écervelée ressemblant à s'y méprendre, à sa regrettée bien-aimée, et qui constate que cette femme ne peut finalement incarner qu'une caricature de la passion initiale, et à un moment donné, elle le provoque par un travestissement blasphématoire, et donc il en perd la raison, il étrangle la femme, qu'il a obligé à regarder en face la réalité ironique dissimulée derrière ce qu'il cherchait à sublimer. C'est une histoire sur l'impossibilité de revivre un grand, un unique amour. Et cette histoire a accompagné votre grand-père, puisqu'il avait cet ouvrage dans sa bibliothèque.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il a vraiment trouvé dans cette histoire une sorte de ressemblance terrifiante pour lui. En fait, c'était un homme qui sortait d'une culture où on refoulait. Le refoulement dans sa vie est vraiment une force virulente même. Et là, il voyait que tout était presque découvert, il était à la surface pour lui, il ne pouvait pas supporter, je crois. Et la profondeur de son innocence provient du fait que c'était exactement un homme qui n'était pas formé. Et c'est ce qui m'a fasciné, parce que c'était un homme qui n'était pas formé et quand même qui avait beaucoup de talent. Qu'est-ce qui se passe avec un talent qui n'est pas formé, hein? C'est aussi cette histoire que je raconte. Mmh. Un homme qui est perdu dans ses sentiments, dans le silence, le taciturne. Et vous avez parlé de votre père, ça m'a beaucoup frappé que vous dites « moi j'ai brisé mon père, comment j'ai brisé la montre ». Je crois que là, il y a toujours chez nous qui lisent et qui savent dans notre famille, pas par commémoration mais par souvenir, ce qui s'est passé d'une façon très personnelle, stricte, intime presque, on reste, nous, avec une culpabilité. Et je crois que tous les livres, le vôtre et le mien, ce qui nous réalise, c'est que on écrit d'un certain sentiment profond de culpabilité de ceux qui viennent après les générations qui ont vécu les catastrophes.
Oui, je suis d'accord.
Ça ne sera
avec vous.
Jamais assez.
Ce sont des livres éperdus de regrets.
Oui, ça ne sera jamais assez, notre deuil. Et ça explique pour moi aussi pourquoi en Flandre, par exemple, on me demande partout en Europe, pourquoi les Flamands ont attendu tellement longtemps d'écrire des grands romans sur la Première Guerre mondiale? Pourquoi est-ce que ça a duré un siècle? En France, on en avait déjà. En Allemagne, on avait « Im Westenichts Neues »,« Remarque »,« Im Stahlgewitten »,« Ernst Dünger »,« Goodbye to all that », »,« Robert Graves ». Ils avaient leur grand roman, les Flamands, non. C'était taciturne. Et je pense que ça a à faire avec ce deuil très, très, très pénible qui prend du temps et de vraiment assumer une certaine culpabilité.
Il y a cette culpabilité difficile à assumer. Il y a aussi, dans vos livres, comment dire, la prise de conscience d'une rupture introduite dans le monde par cette Première Guerre mondiale. Vous parlez, Stéphane Hertmans, de l'éthos disparu du soldat à l'ancienne, hein, et qui est quelque chose pour nous contemporains d'attentats terroristes et de jeux vidéo, est à peine concevable. Hein. Dans l'éthique de la violence, dites-vous, est intervenue une rupture de style. La génération de soldats belges qui fut conduite dans la gueule monstrueuse des mitrailleuses allemandes avait encore grandi selon l'éthique exaltée du 19e siècle, avec un sentiment de fierté, un sens de l'honneur et des idéaux naïfs. Sens de l'honneur, des idéaux naïfs dont votre grand-père est resté porteur jusqu'au bout. Toutes ces vertus d'une autre époque furent réduites en cendres dans l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale. On enivrait sciemment les soldats avant de les amener jusqu'à la ligne de feu. Et vous concluez en disant « une espèce humaine d'un autre âge a été littéralement déchiqueté ». C'est cela l'événement de la Première Guerre mondiale.
C'est le sentiment qui n'a pas arrêté de se renforcer chez moi, que on parle d'une autre planète et des gens qui étaient complètement différents. C'est à cause de cela que moi je commence dès sa jeunesse, de son enfance, parce que je voulais comprendre pourquoi ces soldats n'ont pas dit non. Hein, on connaît toute la stratégie de grignotage, mais c'était absurde. Ça coûtait des centaines et des centaines de vies. Et ça ne servait à rien. Et quand même, il disait oui. Dans tout mon livre, ça court comme un fil rouge. Oui, mon commandant. Et je voulais comprendre. Et là, j'ai vu, ce sont des gens que nous, depuis mai 68, avoir du courage, c'est dire non. À cette époque-là, avoir du courage, c'était dire oui. C'est tout à fait différent. Et ça explique la dignité de mon grand-père et la naïveté, évidemment, pour un pays qui ne parlait même pas leur langue. C'était les Flamands qui étaient les plus royalistes à cette époque-là. C'était à l'envers d'aujourd'hui. Hein? Et là, toute cette situation explique pour moi que c'est un monde révolu, aussi la foi catholique qu'il avait. C'est quelque chose qui appartient à un monde perdu.
Vous diriez la même chose ?
Entièrement.
Stéphane Audouin-Rouzeau ?
Entièrement. Oui, mon commandant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que une société, enfin, comme la nôtre, ne peut plus comprendre, évidemment. Et il y a une, c'est ça qui est très difficile. Nous touchons encore à ces hommes. Votre roman le montre. Vous touchez encore à votre grand-père et moi aussi. Hein, au fond, on est de la même génération. Je pense oui. qu'on touche l'un et l'autre à nos grands-parents. Leurs écrits nous sont parvenus. Nous les avons connus. Et en même temps, la distance historique. Non pas chronologique, strictement mesurée, mais la distance historique entre nous et eux est immense. Et c'est très difficile, évidemment, de le comprendre et d'en rendre compte. Et d'où toute une série de malentendus, et sur eux, et sur nous. Et
ou si j'ajoute une distance sentimentelle.
Bien sûr, évidemment. L'économie des...
Une distance sentimentale.
Oui, l'économie des sentiments étant évidemment absolument différente.
Pour terminer cette émission, je voudrais lire, si vous me le permettez, un extrait de ce qui m'apparaît comme l'un des plus beaux poèmes de Louis Aragon, « La guerre et ce qui s'en suivit ». C'est un convoi qui va vers le front et Aragon imagine ce qui arrivera à ses soldats dans le convoi. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Roule au loin, roule, train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs? La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Vous étirez vos bras, vous retrouvez le jour, arrêt brusque et quelqu'un crie « Au jus là-dedans !» Vous bâillez, vous avez une bouche et des dents, et le caporal chante au pont de Minocourt. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Merci beaucoup Stéphane Hertmans. Merci Stéphane Audouin-Rouzeau pour cette conversation passionnante. Je rappelle le titre de vos livres, Stéphane Hertmans, Guerre et térébenthine. Le livre est magnifiquement traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin. Il est publié aux éditions Gallimard. Et Stéphane Audouin-Rouzeau, Quelle histoire, un récit de filiation, 1914-2014, est publié au Seuil dans la collection Point Histoire. Les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est disponible. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.